tous, les bigayous, les bigayoutes, les bigayous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition ce soir de L'Art au passage, toujours en compagnie de Jérôme à la technique, ici c'est Juliette, et on repart pour une nouvelle diffusion, une nouvelle aventure, une rediffusion de Arakaï, les superbes émissions de nos amis Robert et Piquecou, qui vont vous parler aujourd'hui de Jacques Prévert. Voilà, alors c'est reparti. Donc on va partir aujourd'hui en Normandie, dans le Cotentin, tout là-haut, la petite pointe au-dessus du nez là, de la France, dans un petit village qui s'appelle Aumonville-la-Petite. Aumonville-la-Petite, c'est le village où est enterré le poète. Il a vécu là un certain temps, je ne vous en dis pas plus, vous en saurez davantage en écoutant l'émission. Je vais la faire très courte ce soir, je ne vais pas tout vous raconter. Il va s'agir de poésie, il va s'agir de Citroën, c'est un peu moins poétique, mais Prévert, il arrive à en faire de la poésie. Il va s'agir aussi du groupe Octobre. Passionnante histoire du groupe Octobre, des collages de Prévert, des fascinants collages de Prévert. Voilà, c'est parti maintenant pour un bon moment d'écoute que je vous souhaite très agréable. À tout à l'heure.
Donc vous êtes sur Radio Soupente, c'est l'émission Arakaï, consacrée donc pour la partie artistique à Jacques Prévert. Ce sera une rediffusion d'une émission qu'on avait fait en décembre 2014. Et je suis partie avec deux super copines, Lolo et Clo-Clo, à Barneville-Carteret, et là dans le Cotentin, et nous sommes allées à Aumonville-la-Petite visiter la maison de Jacques Prévert, maison dans laquelle il a vécu la dernière partie de sa vie, ce qui m'a donné envie effectivement de rediffuser ce qu'on avait, le travail qu'on avait fait avec Robert, donc il y a déjà quelques années.
8 ans.
Et là, c'était vraiment une chouette visite. Jacques Prévert, donc cette maison se situe pas très loin de La Hague. Et avant d'y arriver, on passe par un petit port qui s'appelle Port Racine, qui est le plus petit port de France. Il y a 4 bateaux qui sont là enclavés dans des petits murets de pierre. Et c'est vraiment la carte postale. En fait, tout ce que j'ai vu moi pendant ces quelques jours dans le Cotentin était vraiment des villages carte postale, des grandes plages de sable sans personne. C'était vraiment magique. Et donc il y a Aumonville-la-Petite, après ce port Racine, il y a cette maison donc de Jacques Prévert. Jacques Prévert a connu La Hague dans les années 30 et il est venu y vivre dans les dernières années de sa vie. Avant d'arriver à la maison, on passe devant le cimetière et là il y a sa tombe à lui, la tombe de sa femme et la tombe de sa fille. Des tombes qui sont très simples, des blocs de pierre, des stèles de pierre, voilà, très pas travaillées du tout. Enfin, c'est très touchant. Et donc on arrive à cette maison. Il y a une exposition qui est consacrée donc à ses collages au rez-de-chaussée. Ensuite, au premier étage, il y a tout son atelier dans lequel il travaillait, avec sa bibliothèque. Il y avait une autre exposition consacrée à Georges Ribemont de Saille, qui est un poète, peintre et romancier, et qui était un des précurseurs du mouvement Dada, et qui a fait tout un travail sur les arbres absolument magnifique. Et d'ailleurs, il y a un petit bouquin, puisque Prévert a écrit aussi des textes sur ces arbres. Voilà. Et on peut voir donc aussi, pendant cette visite, un petit film d'une trentaine de minutes qui raconte un petit peu la vie de Jacques Prévert, qui est très touchant parce que effectivement Prévert c'était un poète, c'était un cinéaste, l'émission qu'on va rediffuser parle de ses engagements politiques avec le groupe Octobre, il parle de son musicien aussi Joseph Cosma, enfin voilà. Donc tout ce petit voyage là à Aumonville-la-Petite m'a vraiment donné envie de vous faire partager tout ça, quoi.
Arakaï, justement, pour une émission consacrée aux camarades de Jacques Prévert, voilà, principalement pour son action dans le groupe Octobre, comme des gens qu'on a passé ce matin, tels que le camarade, comment dirais-je,
Francis
Lemac. Ouais. Le Titi parisien par excellence, oui.
Voilà. Oui, là, on va commencer par un enregistrement, par un texte qui s'appelle Citroën, un texte donc qu'a écrit Prévert quand Citroën s'est mis en grève, malgré des bénéfices monstrueux, il avait baissé le salaire de ses employés. Donc Jacques Prévert, voilà, raconte lui-même ce mouvement. Et à un moment, donc dans le début du texte, il va parler de la Tour Eiffel avec qui a des lettres brillantes. Et effectivement, Monsieur Citroën avait loué, après avoir, je crois, gagné au casino, la Tour Eiffel pour y inscrire son nom en toutes lettres. Donc je vous laisse écouter ce texte Citroën récité par Jacques Prévert lui-même.
Magnifique.
À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit. Quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale. Une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. 300 voitures, 600 voitures par jour. Trottinette, caravane, expédition, autochine, camion. Bénéfice net, millions, 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 millions. Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 autocamions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule. Il sourit, il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, les ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville, le voilà à Cannes qui sort du casino, le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui, le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air des ouvriers, il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres. Des colonels, gratte-papier, garde-chiourme, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son pagasson. Citron, Citron, bénéfice net, millions, millions. Aussi, le chiffre d'affaires vient à baisser pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas. Il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer. Faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève.
Voilà, c'était donc Jacques Prévert avec sa voix qui est quand même quelque chose, qui vous parlait du capitalisme et du capitalisme. Il n'y a pas grand chose de changé sous le soleil. Et en tout cas, s'il y a eu un moment, un petit changement, on y revient au galop, au triple galop. Voilà, ça fait penser à l'actuel patron du MEDEF, la Gattaz, là, qui voudrait tout foutre en l'air, tout le code du travail, toutes ces choses-là, et voilà, et des patrons qui manifestent à Paris aujourd'hui, on n'avait jamais vu ça, mais enfin bon, c'est un signe des temps quand même.
Donc voilà, donc Jacques Prévert faisait donc partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Octobre. Et ben, quand on avait travaillé sur Dina Vierny, effectivement, on avait mentionné le fait qu'elle avait fait partie de ce groupe, et moi, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'on va parler de Prévert, en fait, particulièrement autour de ce groupe Octobre, puis après de ces collages, quoi, des aspects de Prévert dont on parle peut-être un petit peu moins. Donc il y a Raymond Bussière. Raymond Bussière, c'est l'un du fondateur de ce groupe, qui raconte dans le livre de René Gilson, un livre qui s'appelle Jacques Prévert, des mots et merveilles. Voilà ce qu'il raconte. À cette époque-là, il y avait l'agite propre. Les Allemands avaient fait beaucoup, il y avait tout le boulot de piscator. Alors, nous avons fondé un groupe, et pour qu'il n'y ait pas de gourance, nous l'avons appelé le groupe Octobre. Un groupe formé à partir du groupe Prémisse, qui était affilié à la Fédération du Théâtre Ouvrier. Le groupe recherchait des possibilités d'intervention théâtrale et spontanée qui suivent l'actualité. Le problème, c'était de trouver des textes, continue Bubu. Donc j'ai été voir Vaillant Couturier, qui était alors directeur de l'Humanité et maire de Villejuif. Lui était trop occupé, donc il les a orientés vers Jacques Prévert. Jacques Prévert, qu'il avait rencontré quelques jours auparavant. Prévert venait de quitter les surréalistes, il ne supportait plus l'autoritarisme du maître breton. Donc il est partant, et voilà, le groupe est formé. Travailleurs, attention, votre vie est à vous, ne vous la laissez pas prendre. Socialiste sans parti, communiste, la main qui tient l'outil ressemble à la main qui tient l'outil. Travailleurs, attention, demain nous saurons sur qui nous tirerons. Les machines à tuer, nous les prendrons, nous avons su les fabriquer, nous saurons bien les faire marcher. Et ceux qui crachent tricolore en l'air, leur propre sang leur retombera sur le nez. Il y aura des morts, mais une nouvelle vie pourra commencer. Alors les hommes pourront vivre, alors les enfants pourront rigoler. Vous n'empêcherez pas la terre de tourner, vous n'empêcherez pas le drapeau rouge de flotter. Voilà, c'est un extrait de Vive la presse.
Ouais, vous pouvez chercher longtemps dans la presse des textes comme ça aujourd'hui.
Voilà, c'était Vive la presse, en fait, donc Prévert a beaucoup lu et découpé la presse. Et donc Vive la presse, c'était la première pièce qui a été jouée par ce groupe Octobre. Donc Vive la presse, effectivement, condamne tous les mensonges et la soumission de la presse écrite aux marchands de canons. Et ça, c'est ce petit texte, c'est l'avertissement que l'on pouvait entendre dans les rues de Paris, dans les usines en grève, les bistrots, les grands magasins, au milieu des fêtes ouvrières et des manifestations populaires en 1932. Prévert devient donc rapidement l'animateur et l'entraîneur du groupe. Il rédige des textes, des sketchs, des chansons, des pièces de théâtre pour chaque évitement politique et à chaque circonstance. Donc il met l'humour et l'onirisme au service de la gouaille et il cherche donc à secouer cette société bourgeoise dominante. Les textes, en fait, sont rédigés dans l'urgence des situations. Il y a 2 heures de répétition et la pièce est jouée. Donc comme les spectacles du groupe sont d'abord populaires, ils débordent d'extravagance, de jeux de mots, d'humour, de surréalisme et de poésie. Et bien sûr, ce sont toujours les prolétaires, les ouvriers, les clochards, les rêveurs qui ont le beau rôle. Prévert fait entendre leurs voix qui sont trop souvent refoulées. Les textes d'Octobre donc rappellent les scandales, les affaires sordides, l'hystérie du pouvoir. Des textes qui n'hésitent pas non plus à citer des noms, comme celui qu'on peut avoir dans la bataille de Fontenoy, qui raille donc l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Comme dans la bouche de Poincaré, on peut entendre « Soldats tombés à Fontenoy, le soleil d'Austerlitz vous contemple, à la guerre comme à la guerre, un militaire de perdu, 10 de retrouvé, il faut des civils pour faire des militaires ». Avec un civil vivant, on fait un soldat mort. Il y a aussi beaucoup de sketchs anticléricaux à l'époque de Noël. Adolf Hitler est chancelier le 30 janvier 1933. Jacques Prévert écrit le jour même l'événement d'Hitler. Et puis c'est joué le lendemain. Le texte La Commune est également joué et clamé le long du parcours vers le mur des fédérés. Contre les croix de feu, c'est le texte Mange ta soupe et tais-toi. Et puis pour la fête bretonne à Saint-Cyr-l'École, c'est Suivez le druide. Un spectacle subversif, qui est joué sous le nez des Saint-Cyriens en uniforme. D'ailleurs, Prévert détestait tous les uniformes. Le tableau des merveilles, c'est la dernière de leurs pièces. Et c'est Jean-Louis Barrault là, qui avait suggéré à Prévert d'adapter cette pièce de Cervantes, une des plus remarquables du recueil 8 comédies et 8 intermèdes. Donc il joue et répète au grenier des Augustins, qui sera d'ailleurs le futur atelier de Picasso. Et là, parmi eux, il y a le tout jeune Mouloudji, qui a juste 12 ans. Donc c'est un spectacle qui sera joué de nombreuses fois, en plein front populaire. Donc l'idée du spectacle, ce sont des saltimbanques qui proposent aux notables d'un petit village un spectacle que seules les âmes pures, n'ayant jamais fauté, pourront voir. Donc les pauvres sont alors exclus de la représentation, et effectivement, lorsque celle-ci a lieu, chacun rivalise d'hypocrisie afin de paraître le plus pieux et le plus irréprochable aux yeux des autres membres du village, parce qu'effectivement il se passe rien, mais ils font tous comme s'il se passait quelque chose. Donc, c'est un petit texte qui est dans le spectacle, qu'il faut absolument lire. Et le groupe Octobre abandonne ses activités en 1936, après 4 années d'effervescence, de camaraderie, de fraternité. Et lorsque le groupe, une petite anecdote, lorsque le groupe part à Moscou en juin 1933 pour représenter la France au Festival international du théâtre ouvrier, l'esprit de liberté de Prévert, son anarchisme viscéral, le font ruer dans les brancards. Les officiers surveillent les trotskistes, après avoir écarté les surréalistes, et Prévert ne rentre pas dans les lignes de la visite programmée. Il s'enquiert des conditions de vie réelles des travailleurs, il ne se contente pas des discours officiels, ni des spectacles trop folkloriques à son goût, qui sont pas assez proches du peuple soviétique. Il demande à voir les toilettes des usines pour voir si elles sont plus propres que celles de chez Citroën. Il s'étonne qu'on le gave de petits fours et de chocolat alors qu'il constate la misère. Et au retour, au moment d'embarquer, il refuse de signer un télégramme de remerciement à Staline pour son œuvre accomplie. Et le facteur décisif en fait du tarissement est un... Voilà, donc ça c'était ce qui s'était passé donc à Moscou en 1933. Et après, en fait, c'est pour cette fin de groupe. Le facteur décisif du tarissement, c'est un communiqué qui est paru dans l'Humanité en 1935, selon lequel Staline approuve la politique de défense nationale de la France, les accords Laval. Les convictions antimilitaristes sont déboussolées, et Prévert dira plus tard « J'ai abandonné au moment des accords de Laval. C'était le moment où, dans les milieux ouvriers, il devenait de bon ton de remplacer l'Internationale par la Marseillaise. Cela ne me plaisait pas, parce que la Marseillaise, je la connaissais depuis que j'étais tout petit, je l'avais vue à toutes les sauces, et j'aimais bien l'Internationale. Alors, cela s'est arrêté là. Le Front populaire élu ne répond pas aux espérances. La guerre d'Espagne éclate, donc ce sont autant de sujets de discorde au sein du groupe. Donc ce groupe préfère en fait se séparer avant de se fâcher. Et donc on est en plein au Front National. Donc là, les ouvriers s'arrêtent de travailler pendant 2 semaines. Ce sont les premiers congés payés. Les députés ont été contraints de voter. La droite a du mal à le digérer. Et Jacques Prévert, donc, qui n'avait pas quitté Paris depuis quelques années, part aux Baléares, comme il dit, aux îles Baladares. Donc la bande de copains, de toute façon, pourra se retrouver de temps en temps, même des années plus tard, ils seront toujours bons amis, quoi. Et parmi les membres du groupe Octobre, donc on peut voir, il y avait Raymond Bussière, il y avait Paul Grimaud, celui qui a fait le Roi et l'Oiseau, il y avait Lou Tchimoukov, Margot Capelier, Brunus, Roger Blin, Sylvien Bataille, Maurice Baquet, Marcel Duhamel, Pierre Prévert, le frère de Jacques, Guy Decombe, Jean-Louis Barrault, Jeannette et Lazare Fouchman, Suzanne Montel, Yves Allégret, Fabien Loris, Mouloudji, Jean-Paul Le Chanois, Max Maurice, Francis Lemarque. Et les pièces les plus importantes qui ont été écrites avec ce groupe Octobre sont rassemblées dans le livre Spectacle. Et certaines ont été reprises après dans le cabaret d'Agnès Capri dès 1938, ou alors plus tard à la Fontaine des Quatre Saisons. Fontaine des Quatre Saisons dont on avait parlé justement, parce que c'est là que Dina Verny avait acheté le bâtiment pour faire le musée Mayol, quoi. Et là, je voulais faire écouter donc une petite, c'est pareil, un petit morceau sur un petit archive de l'INA. C'est Francis Lemarque qui raconte ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans le groupe Octobre.
Eh ben, on profitait d'abord du 14 juillet, puisque le 14 juillet, il y avait plein de balles dans les rues, et on choisissait dans les beaux quartiers, dans ce que nous considérions comme des quartiers snobs, du côté des Champs-Élysées, un bal très, très animé, plein de danseurs, et on regardait, et puis entre deux danses, tout à coup, on était une quinzaine de copains, on en tenait « Amusez-vous, faites les fous, la vie passera comme un rêve !» Alors naturellement, tout le monde s'agglutinait autour de nous, et quand on sentait qu'on avait bien capté l'attention de ce public, on leur balançait un cœur parlé de Jacques Prévert. Alors ça commençait « Camarades, écoutez-nous, aujourd'hui c'est le 14 juillet, aujourd'hui vous avez le droit de danser. Demain c'est le 15 juillet, le terme, c'est la fête nationale pour les propriétaires !» Passez la monnaie, on ne danse pas souvent, mais on pèle tout le temps. Chaque jour, les salaires baissent et le coût de la vie augmente. Les impôts si lourds pour les petits, si légers pour les gros. Nous dansons devant le buffet, les huissiers emportent les buffets. On ne sait plus sur quel pied danser. Nous danserons sur le pied de guerre puisque les crédits sont votés. 10 milliards, 10 000 millions de francs en plus pour la guerre. Nous danserons au pas qu'à danser. La valse bleue horizon. nous danserons sur nos moignons pour les marchands de canons. Et puis, quand on sera sous terre, ce sera le moment de se taire. Disparu, ni vu, ni connu. À qui le tour d'être le poilu inconnu ? Demain, les lampions seront éteints, et l'année prochaine, ce sera la même rengaine. Amusez-vous, faites les fous. Mais l'année prochaine, ce sera peut-être l'année de la prochaine. L'année prochaine, où serez-vous ? Mort, peut-être. Le voulez-vous ? Non ? Eh bien alors, défendez-vous. Et à ce moment-là, stratégiquement, on avait tout prévu, on se dispersait comme des moineaux, on cavalait comme des zèbres, et aucun flic n'a jamais pu nous rattraper.
Donc voilà Francis Lemarre qui s'exprimait sur ce groupe Octobre.
À Racaille qui consacre justement cette émission à Jacques Prévert, qui est un des animateurs vraiment principaux du groupe Octobre. Voilà, poète, parolier de chansons, plasticien aussi avec ses collages dont je vous parlerai tout à l'heure.
Alors il paraît que Prévert n'aimait pas du tout qu'on l'appelle poète. Lui disait que les poètes sortaient tous de Sciences Po.
Enfin, quelqu'un qui avait une écriture libre, en tout cas.
Voilà. Alors, moi, je voulais rajouter que là, donc, on met beaucoup de musique de textes de Jacques Prévert mis en musique, et que c'est Joseph Cosma qui a fait les musiques des poèmes de Prévert, et que Cosma est très important, quand même, dans la relation à Prévert. C'est une rencontre qui avait eu lieu, donc, entre un musicien, donc Cosma, un musicien qui était féru de littérature, et Prévert, qui était un poète épris de mélodie. Donc Cosma, je vais juste dire deux trois mots sur sa vie. Donc Cosma est hongrois, il apprend très jeune le piano, il écrit même un opéra à 12 ans et il part pour l'Allemagne. Il est accueilli par le groupe d'artistes qui entoure Bertolt Brecht. Et là, donc, il découvre une musique qui se veut vraiment très engagée et dérangeante. Il est autour de Kurt Weill et de Hans Heiler. Et après, il quitte l'Allemagne. Il quitte l'Allemagne en 1933. Il arrive en France, il ne connaît pas la langue française. Puis il rencontre Jacques Prévert. Et là, en fait, Cosma va travailler avec Prévert. Il va composer la musique de la chanson qui s'appelle « À la belle étoile » que je vais passer là tout de suite. Donc, c'est des paroles de Jacques Prévert. Et c'est une chanson qu'on peut entendre dans le film de Renoir, « Le crime de Monsieur Lange ». Donc, Cosma va désormais composer pour le cinéma, donc émettre des textes de Prévert en musique. Et à la Seconde Guerre mondiale, il ne partira pas aux États-Unis. Il reste en France. Et Prévert le cache dans le Midi à Tourette-sur-Louze, qui va lui permettre de continuer à travailler. Et ensuite, Cosma sera confié au réseau de résistance pour être protégé. Bon, malheureusement, Prévert et Cosma se fâcheront après à propos du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Quand le producteur pensera que le film est prêt et que Prévert et Grimaud sont pas d'accord, Cosma prend le parti du producteur. Donc là, il y a une fâcherie entre les deux.
Ouais.
Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien. Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs. Et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour et le jour. C'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour la première venue. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile. C'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile. C'est une triste vie. Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il monte à ses années. Jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile. étoile, c'est comme ça que je vis. Boulevard des Italiens, j'ai rencontré un Espagnol. Devant chez Dupont, tout est bon après la fermeture. Il fouillait les ordures pour trouver un crouton. Encore un sale youpin, dit un monsieur très bien, qui vient manger notre pain. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour la première venue. Au jour et le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une drôle d'étoile. C'est une triste vie.
Donc c'était Juliette Gréco qui interprétait à la Belle Étoile, donc une chanson qu'on peut voir interprétée, je crois, par Florel, donc dans le film Le Crime de Monsieur Lange. Je vais mettre un lien sur le blog, parce qu'en fait ce film on peut le revoir sur YouTube, il est en 8 parties. Moi je l'ai revu dimanche, c'est vraiment, je pense, le meilleur film de Renoir, qui est pas du tout le Renoir qui filme quand même la bourgeoisie et ses boudoirs, mais là c'est une petite équipe qui après le départ du patron, qui est interprété par Jules Berry, un patron machiavélique, qui est vraiment un sale patron, va former une coopérative de travail. Il y a une pêche et une énergie là-dedans qui est vraiment l'énergie de 36.
Ouais. Oui, Pigicourt est dû naître à cette époque-là. Voilà, très nostalgique de cette époque. Et tout de suite, je vais vous faire une petite lecture. Vous pardonnerez si vous voudrez bien me pardonner ou me conchier si je suis pas au top pour la lecture de poésie. Mais bon, un poème, ça se lit avant de se dire. C'est consacré, enfin, c'est un poème sur la art abstru. A-B-S-T-R-U-S, ouais, abstruse, vous voyez. Désagréablement surpris de vivre, à peine satisfait de ne pas être mort, jamais il n'adresse la parole à la vie. Il y a une nuance entre dire et demander merci. Et la tête entre les mains et les pinceaux tout près, mais la couleur si loin, debout devant son chevalet de torture picturale, il se regarde et s'observe dans le miroir de la toile, où la migale de la mégalomanie tisse et rôtisse à l'infini la décalcomanie logorifique de ses spéculations esthétiques. Abstraire une vache pour en tirer du lait et tirer de soleil le portrait d'un brin d'herbe que la vache a brouté. Pourtant, des tournesols de fer voltigent en Provence dans les jardins de Caldère. Pourtant, sous la pluie, contre un poteau télégraphique, un vélo de braque dit merci à l'éclaircie. Pourtant, Claude et Paloma Picasso ne prennent pas la peine de pousser le cadre pour sortir tout vivant du tableau. Pourtant, la bohémienne, endormie, rêve encore du douanier Rousseau. Pourtant, des éclats de soleil blessent encore l'oiseau tardif des paysages de Miro. Pourtant, à Florence, cette haleine de fleurs peintes entre les lèvres de la bouche d'un visage de Botticelli a toujours le même parfum que le printemps Vivaldi. Pourtant aujourd'hui, en pleine lumière d'Antibes, dans une galerie d'art à Paris, l'enfant du sang des songes, frémissant et meurtri devant une toile de Nicolas de Staël, chante sa fraternelle ritournelle. La mort est dans la vie est dans la mort. La vie est dans la mort est dans la vie. Voilà, c'est ce poème de Jacques Prévert, art abstru, que j'ai tenté de vous lire, mais vous pourrez évidemment le relire si vous achetez le petit bouquin qui s'appelle La plume et le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Ah oui, la pluie, pardon. La pluie et le beau temps, je suis un peu troublé, quoi, vous voyez. Bon, voilà, c'est fini mon petit pensum.
Ouais, t'as pas fini, parce que maintenant, c'est toi qui nous parles du travail de collage de Jacques Prévert.
Ah ben oui, c'est juste, merde. Oui, Jacques Prévert, qu'on connaît surtout pour tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent.
mais aussi qui a une partie de sa vie consacrée son temps au collage, parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il avait eu un très très grave accident. Je ne sais pas comment il a fait comment il a pu faire ça. Mais enfin, il s'est balancé d'un étage de la radio. Il était sans pas fait par terre, quoi. Et il était vraiment entre la vie et la mort pendant un bon moment, dans le coma, etc., etc. Et il était pas comme un légume, mais bon, pas loin. Et donc, il n'est plus question d'écrire, de parler, de faire plein de choses. Et ben alors, il avait toute sa vie, il avait collectionné des gravures anciennes, des magazines de photos, etc., etc., comme il y en avait beaucoup à cette époque. Voilà. Et il stockait tout ça, des choses qu'il avait récoltées dans les flâneries sur les grands boulevards ou dans des librairies spécialisées ou chez les brocanteurs. Voilà. Et ce stock, eh bien, il l'a attaqué pour faire des collages. Des collages, c'est simple. Hein. Il suffit pour les voir de garder les yeux dans la tête et non dans la poche. Voilà, il court les rues. J'ai bien entendu hier au bistrot un homme qui disait « À droite, j'ai une pommette, à gauche, je n'en ai plus. » Allez savoir s'il s'agissait d'un accident d'automobile, de chirurgie esthétique, d'une guerre, d'une lubie ou de toute autre chose. Son visage, pourtant, paraissait normal. Voilà. Eh bien, les collages de Prévert réunis dans un album qui s'appelle Fatra, alors vous pouvez l'avoir évidemment dans une collection populaire. C'était édité par les NRF. Voilà, c'est un brochet tout simple. Et où on voit justement, eh bien, ce qu'il vient de décrire. Là, on voit, il fait avec toute cette récolte de cette glane de documents, eh bien, il découpe là-dedans allègrement et il colle sur des feuilles de papier ou sur des fonds de journaux ou de fonds colorés, etc. Il colle des personnages, il colle des animaux, mais il colle pas seulement des personnages, il colle des personnages qui ont été par exemple, à la place d'une tête humaine, eh ben, il met une tête d'animal, vous voyez. À la place de jambes humaines, il met des jambes d'animaux. Enfin, il fait un trafic extraordinaire il reconstitue qu'on appelle ça des chimères, voilà. Et si vous voulez, Dali a dû pomper allègrement sur lui, je pense. Il est un peu comme Picasso, il pompait avec les meilleurs. Voilà. Mais Prévert c'était un jeu pour lui, c'est vraiment l'art tel que personnellement je l'aime. Un art ludique, un art qui donne un plaisir et qui, en même temps, satisfait et l'esprit et l'émotion, quoi, vous voyez. C'est, voilà. Il exprime ainsi des choses complètement folles dingues. Mais toujours avec un rapport quand même avec la vie, avec la réalité. C'est pas complètement gratuit, vous voyez. Voilà. Là, il a vraiment fête post-colombienne, la sentinelle, enfin préparatif d'une fête, vous voyez. Ça a un rapport dans les intitulés, en tout cas petit sabbat, vous voyez. On voit, il y a un fond de maison ancienne avec toutes les fenêtres allumées. En premier plan, on a des fesses de mouton qui ressemblent à des fesses humaines, avec un bélier qui regarde sur un canapé des anges avec des têtes de bouc, c'est-à-dire on pourrait penser que ce sont des anges infernaux, et puis un ange vraiment avec une tête d'ange qui est en train de prier. Alors évidemment, il y a des disproportions aussi, il joue sur les disproportions, si vous voulez. Il peut mettre des personnages avec une taille normale et à côté en mettre en réduction, vous voyez. Il joue vraiment sur plein de choses de visuel, vous voyez. Le Seigneur expulsé du paradis terrestre aussi, ou à côté, la beauté du diable. Alors on voit une nana quasiment à poil, avec une très belle paire de fesses, et elle est tenue par un espèce de gorille ou de chimpanzé, enfin une tête de chimpanzé, un corps humain, enfin le haut du corps en tout cas, et puis en bas à gauche des suppliants, quoi, qui tendent les bras, etc. Alors, pourquoi ils tendent les bras? Est-ce qu'ils tendent les bras vers la croupe de la belle plante que cette espèce de chimpanzé tient dans ses bras? On ne sait pas. Enfin voilà, c'est pas vraiment énigmatique, mais ça pose des questions, ça Voilà, il a un travail de poète dans son collage parce qu'il transforme. Il transforme le quotidien en quelque chose d'extra, de rêve, de songe, de cauchemar. Enfin, d'ailleurs, voilà, c'est des choses qui n'existent évidemment pas dans la vie courante, mais il se sert de la vie courante pour la transfigurer. Et c'est un vrai, c'est un travail de création d'artiste, de poésie. Voilà. Il disait, Prévert, pour m'amuser, je pose encore des questions enfantines. Et, oui, cet enfant n'a pas tellement changé. Je suis trop vieux pour mon âge et à la fois trop jeune pour lui. Et je précède encore tout le temps ce que je suis. Cet enfant que j'étais, à les entendre, n'avait pas raison. Il avait autre chose et qui n'est pas qu'à lui. Je l'ai encore d'autres aussi. Le chat sauvage trouve son herbe à guérir ou sa chatte à jouir. Dans les rues de la ville, j'ai trouvé mon herbe à plaisir. L'enfant que j'étais, j'ai gardé ses larmes, et j'ai gardé son rire, et les secrets heureux. Les secrets heureux de l'enfance, vous savez, qu'on porte en soi, qui nous rendent pratiquement qui nous rendent invulnérables au monde des adultes, enfin en tout cas aux blessures qui pourraient nous infliger. Mais ce qu'on a en nous quand on est enfant nous protège contre toutes ces attaques qui pourraient nous détruire si on n'avait pas en nous justement ce que Prévert vient de écrit ou dit, voilà. Et dans ces collages, qui sont vraiment des œuvres d'art, aucun doute là-dessus, Prévert met en image ce qu'il écrivait avant et ce qu'il écrira aussi après. Mais il a terminé sa vie quand même en collant. Voilà. Je demandais à Prévert, il s'est voûté avec l'âge Picasso ? Et lui, penses-tu, quand tu le vois, tu ne peux même pas penser qu'il est petit. Il te regarde tellement qu'il enlève toutes les proportions, vous voyez. Et ça, oui, ben voilà, Picasso aussi était un phénomène dans ce sens-là. Voilà, il est petit, Picasso, pensez pas. Il avait l'air d'être un géant parce qu'il avait un regard aussi qui vous rendait vraiment misérablement petit. Voilà, c'était sa manière de si vous voulez, de s'affirmer aussi dans la vie, mais avec, il n'y avait pas que ça pour s'affirmer, Picasso, évidemment. Il avait d'autres munitions dans sa musette. Et voilà, Picasso, pourquoi ce rapprochement avec Picasso? Bah parce que comme Picasso, qui a cassé la figure, qui a cassé tous les canons de la peinture, Prévert aussi, avec ses collages, en quelque sorte, lui, il casse pas les canons de la peinture, il casse les canons de la poésie, parce que ces images sont des images de poètes avant tout. Voilà. C'est un aspect de Prévert que vous pouvez ou découvrir pour certains ou pour d'autres, approfondir. Voilà, en relisant, en regardant, en tout cas, ce volume de Fatra, je vous dis chez Gallimard, et puis aussi, chez Gallimard, il y en a un vachement plus grand avec plein d'images en couleur, parce qu'il y en a, les images sont en noir et blanc, qui s'appelle Jacques Prévert Collage, avec une préface de Philippe Soupeau et des textes d'André Posner chez Gallimard. Voilà, c'est un grand format cartonné, jaquette cartonnée et tout.
Ouais, c'est un bouquin que j'ai trouvé donc à moi à la bibliothèque de Montreuil, ouais, que je vais rapporter demain matin. Donc s'il y a des gens qui sont de Montreuil, ils peuvent aller l'emprunter, voilà, demain après-midi.
Voilà. Et non, mais on peut trouver les et puis il y a tous ces petits bouquins de poésie en poche, voilà, on s'en est inspiré pour cette émission, et que vous pourrez pour 2 balles, quoi, dans toutes les, un peu partout, voilà. Il a été évidemment un poète très prolifique, un cinéaste aussi, et partout où il mettait sa patte, et ben, il transfigurait les choses. Voilà.
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont
sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.
C'était Catherine Sauvage, Les enfants qui s'aiment, encore un texte de Jacques Prévert.
Là, avec Piqueco, on va vous lire un des textes à deux voix. Le premier, on a intitulé ça des lectures diverses, Étranges étrangers. C'est un extrait du bouquin La pluie et le beau temps dont on vous a déjà parlé. Voilà. Piqueco va commencer à lire ce poème.
Ouais, c'est un texte en fait apparemment qui a été mis aussi en musique rap par des jeunes d'Aubervilliers. Alors, étranges étrangers, kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polaques du marais du temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres.
Esclaves noirs de Fréjus tiraillés, parqués au bord d'une petite mer où peu vous baignez, esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au parc à danser la prise de la Bastille le 14 juillet.
Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos.
Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de la vie, de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Voilà, c'est un poème donc de Jacques Prévert, Étranges étrangers. Et on va avoir une pause musicale. Après, Piqueco vous lira un dernier extrait des Sardinières.
Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies, et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil, sans régler les consommations. Disparaît dans le soleil, tout en continuant sa chanson. Tidididada, ouais, la guerre est finie. Et puis la vie est belle, et les filles sont jolies, drôlement jolies même.
C'était La fête continue, interprétée par Serge Reggiani. Voilà, encore un texte de Prévert, toujours subversif. Donc maintenant, je vais vous lire la chanson des Sardinières. Donc c'est un poème qui est extrait du recueil Spectacle. Donc chanson des Sardinières. Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques, bientôt vous serez dedans. tournez, tournez, filles des pêcheurs, filles des paysans. Les fées qui sont venues autour de vos berceaux, les fées étaient payées par les gens du château. Elles vous ont dit l'avenir et il n'était pas beau. Vous vivrez malheureuse et vous aurez beaucoup d'enfants qui vivront malheureux et qui auront beaucoup d'enfants qui vivront malheureux et qui auront beaucoup d'enfants qui vivront malheureux et qui auront beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques, bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, fille des pêcheurs, fille des paysans.
Voilà, ainsi se termine l'émission consacrée à Jacques Prévert. J'espère que vous avez apprécié ce bon moment. On va terminer par une interprétation de « Étranges étrangers » par Jean Guidoni. Bonne écoute.
Cadille de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doubeux musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumillons de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvre désœuvrés, polac du marais, du temple des rosiers. Étrange, étranger, étrange, étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez, même si vous en mourrez. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco, déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peut-vous vous baigner. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au Pâques à danser la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Étrange, étranger, étrange, étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez, même si vous en mourrez. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des pompes incendiaires, l'amour en vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étrange, étranger, étrange, étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez, si vous